podcast.com. Essaye ça.
Le crachoir, épisode 156, One Love. Salut Martin.
Hey, salut mon Frank, j'espère que tu vas bien.
Ça va très bien et avec tout ce qui s'est passé dans la semaine, on dira pas encore hein, t'as une grosse semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite dans les actus conspi.
Actualité conspi.
Ben oui, puis j'allais te dire que tu dois pas avoir eu beaucoup de visites cette semaine, hein, parce que t'es pas juste en confinement, toi, t'es barré, là.
Comment barré?
On n'a plus le droit d'aller chez vous.
Ah, à l'Abitibi, tu veux dire?
Ouais.
Bon, je te dirais que depuis un an, la visite, c'est assez tranquille chez nous. Moi, ma vie continue. Pour vrai, ça je fais partie des chanceux qui ne sont pas tellement affectés par... par les mesures, parce que, un, j'avais déjà une vie plate, et deuxièmement, mon travail fait que je break le curfew. J'ai une dérogation qui me permet de me déplacer jusqu'à mon travail pendant les heures de couvre-feu, ce que je faisais déjà avant, déjà tout seul, puis je suis quelqu'un qui est bien tout seul, puis qui est bien entouré, je vis pas tout seul. Ça doit être difficile pour une personne qui vit tout seul puis qui a plus accès à la vie sociale. Mais dans mon cas, j'ai ma blonde, je vous ai le deep steak à tous les soirs. Si je m'ennuie, je m'en vais dans Denis la nuit, puis j'ai plein d'amis là. Fait que moi, je suis chanceux. Ces mesures là ne m'atteignent pas tellement, mais j'ai beaucoup d'empathie par exemple pour ceux qui le vivent plus tough. Mais je suis content qu'on ait quand même barré notre région là.
Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir une superbe publication de, bien sûr, notre ami commun, Dominique Moret, de Choix Radio.
Mauvais, tu veux dire.
À l'annonce du cloisonnement ou en fait de la fermeture de la région, a trouvé le moyen de faire un gag, complètement soporifique, dans lequel il mentionnait, y en a-tu dans vous autres qui a des plans à aller faire un tour à Amos? Alors, on salue les gens d'Amos, il y en a qui nous écoutent.
Ouais,
c'est content de vous avoir avec nous autres. Puis, vous habitez dans un très beau coin et on souhaite que vous en ayez en masse la visite quand tout ça sera résorbé.
Mais ça, c'est des préjugés de citadins de Québec, ben de ouais. Montréal, qui pensent que dans les régions. Puis, sais-tu quoi, avant de venir ici, j'avais à peu près les mêmes préjugés. Quand j'ai fini mon cours de radio, puis que le directeur de l'école nous parlait des offres d'emploi, puis qu'il y en avait une en Abitibi, on a tous eu la même réaction. T'sais, on se disait, bon alors, on comprend qu'on peut, on va déménager, on est prêt à aller ailleurs, pour commencer notre métier, là. Mais là, l'Abitibi, tabarnak, il y a des limites, là. On n'ira pas dans... Mais finalement, moi, j'ai fini... en fait, j'ai commencé ma carrière en Beauce. Mais j'ai reçu cette offre-là pour aller faire de la radio, parler en Abitibi. Et j'ai tellement aimé la place que ça fait 10 ans que je suis ici. J'ai même quitté pour être journaliste à une autre station au Bas-Saint-Laurent. Puis je suis revenu, tu sais, j'étais à 45 minutes de mon hometown, c'est Québec. J'étais à 45 minutes de ce que j'appelle chez nous, mon port d'attache. Mais c'est de l'Abitibi que je m'ennuyais, puis c'est ici que je suis revenu de toute façon. Fait que, écoute, Dominique Mauvais, on veut pas de toi ici. Fait que, reste chez vous, pas de problème.
Tu m'as battu au punch, je m'en allais dire. De toute façon, je doute qu'il ait envie de te voir.
Non, je pense pas.
Justement, parlant de pas envie de voir quelqu'un, écoute, je veux te nommer une personne, veux-tu me dire si ça te dit quelque chose?
OK.
Ça n'a plus aucun lien avec ce qu'on vient de discuter, là.
OK, et pas de lien avec Radio Conspix ou Dominique Mauvais.
Non. Daniel Brisson.
Le nom me dit quelque chose.
Mais tu pourrais pas...
Faudrait j'aille le googler, là.
Non, mais OK, vas-y pas, je vais te régler ça. C'est le gars qui a eu 5 % des suffrages dans le raz-de-marée Éric Jamem à la chefferie du Parti conservateur québécois. Arrêtons de dire... qu'il y a eu une course. Il n'y a pas eu de fucking course, OK?
C'est une élection à la Saddam Hussein, là, tu sais. Tout le monde a voté pour ça. Moi.
Oui, c'est ça. Tu sais, il y a plus de, ça résonne plus quand tu dis le gars que je m'aime va remplacer que le gars qui a couru contre lui. Et c'est Adélien Pouliot. Fait que regarde là. Tu sais, à un moment donné, là, faut pas prendre pour les caves là. Tu sais, je comprends que toutes les masques médias ont fait attends un petit peu. Ils ont fait, ils ont annoncé qu'il avait été élu et tout ça. Je comprends. Les autres ils ont un job journalistique. Mais Eric, arrête de nous faire croire qu'il y avait une race là, s'il te plaît. Là, hein? On arrête ça tout de suite. Là, come on. Là, d'ailleurs, je veux t'en parler parce que, ben, vas-y, Fon.
Je veux dire, moi, ce qui m'a fait rire dans le reportage que j'ai lu de Radio-Canada, c'était la citation d'Éric qui disait il y a des moments, c'est de ces moments-là, de mémoire, là, c'est pas ces mots précis, là, mais il racontait à quel point c'était un moment marquant de sa vie, tu sais. Que penser? T'sais, je m'adresse à ceux qui tripent sur le Parti conservateur et qui ont l'intention de donner leur vote à cet énergumène. Que penser d'un leader politique qui considère qu'un des grands moments de sa vie, c'est quand il a scoré dans un filet désert alors qu'il n'y avait pas d'autre équipe sur la glace? Puis, pour lui, ça, c'est un grand moment. Là. Je veux juste souligner ça. Là. Que penser de cet homme-là? Là? Que seront ses réalisations? Quels sont ses objectifs s'il se satisfait d'un but dans un filet désert pour qualifier ça d'un grand moment de sa vie? On comprend que c'est une parole de politicien pour faire plaisir à sa base électorale, mais dans le contexte, c'est assez comique. Là. Dans le contexte de l'élection. Là.
J'ai adoré, d'ailleurs, tu sais, dans les Actu Conspi, il y a eu une petite publication qui a été faite sur sa page, bien sûr, officielle, dans laquelle il s'adressait aux dames en disant qu'il avait besoin d'elle pour puis qu'elles aillent voter et tout ça. Et il s'adressait à elle en spécifiant très clairement que parmi leurs valeurs, ce qui est vrai, je n'ai pas de raison d'en douter, mais parmi leurs valeurs, il y avait le sens de la famille. T'sais, tout le monde sait ça, Frank, que les hommes ont pas le sens de la famille. Hein? T'sais, c'est pour ça qu'il faut qu'ils s'adressent aux femmes. Et là,
ben non, les gars, c'est la business puis l'argent. Puis les femmes, c'est au foyer avec les enfants. Ouais. Conservateur. Ben ouais. Yeah.
Exactement. Et là, ben écoute, c'est un rose nanane sucé longtemps, sa publication. Le Monde, on a fait une publication sur Ménage du dimanche. Le Monde me dit, c'est toi qui as mis le rose? Non, c'est lui. Et on s'est inspiré du même code RGB pour refaire la couleur parce que c'était sa publication habituelle. Okay. On va remettre quelques petits faits en contexte, Frank, qui sont importants. Mm-hmm. Rigueur calice. La première chose, c'est que ça, c'est vrai que le membership du parti depuis que Jemem s'est présenté puis que t'as la course à la chefferie, ben c'est vrai qu'ils ont passé de 700 à 14 000 membres. Ça, c'est vrai. Mm-hmm. Mais considérant le fait que, écoute, lui, il a flairé l'opportunité, ben regarde, ça fait bien du sens.
Oh, il a ramassé
comme plus sérieux aller. Que la Fédé la Tapouette. Fait que regarde, ça va. Correct, fine, good show. OK? Sauf que rappelons quand même qu'il s'était présenté dans le comté de Deux-Montagnes en 2003 sous la bannière de l'ADQ et qu'il avait terminé en troisième place. Et rappelons également qu'il y a de l'ouvrage, notre beau Éric Jemem, parce que c'est 1,46% des suffrages que le PCQ avait remporté en 2018. Ils ont fini en arrière du Parti vert.
OK.
OK? Fait que il y a de l'ouvrage. Fait que là, bien évidemment que on s'attend. Tu sais, écoute, moi, c'est mon opinion, probablement la tienne aussi, mais tu sais, dans la région de Québec, dans la région de la Beauce et tout ça au provincial.
Ça va un peu plus.
Oui, oui, ça risque de bien se passer, évidemment. Sauf que, encore une fois, il n'y a pas de scénario perdant pour Éric Jemem, parce que peu importe son résultat, il va torcher le cul des résultats d'avant.
Oui, c'est
alors,
sûr,
là,
c'est sûr.
Il va pouvoir se présenter en disant, tu sais, à vaincre le sans péril, on triomphe sans gloire, ben, il va arriver là, puis il va dire, hey, on avait eu 1,46% des suffrages, puis là, on en a eu 12. Oui, oh, oui, OK, ça fait 1200% d'augmentation. Mais tu sais, quand tu pars de 1,46%, il n'y a pas de quoi se bomber le chiste.
Oui, oh, puis tu remercieras, Éric, au passage, Stéphane Blais d'avoir préparé les conspies à ton arrivée. Tu sais, Stéphane Blais, là, c'est ni plus ni moins qu'un prophète. C'est Saint-Jean-Baptiste qui annonçait la venue du Messie, et maintenant, comme Saint-Jean-Baptiste, il va devoir diminuer à mesure qu'Éric va grandir. Et son parti citoyen, conspitoyen au pouvoir, se verra face à deux options, se rallier ou périr, disparaître de la carte électorale. Puis je pense que ce qui va arriver, si Stéphane est capable de piler sur son orgueil un petit peu, il va se rallier. Sinon, ils vont juste disparaître, ce parti ridicule-là. Encore plus ridicule que le Parti conservateur, c'est Citoyens au pouvoir. Là. Tu sais, c'est la lie.
Tu sais, j'ai bien hâte de voir aussi si éventuellement il y aura une course à la chefferie de la de Concitoyens au pouvoir. J'ai bien hâte de voir ça. Me semble de voir mon coach Dan aller faire sa campagne, tu sais, sa course pour aller à la chefferie de Concitoyens au pouvoir, puis dire, ben, en tout cas, moi, je vous le dis, vous devriez pas voter pour moi. Moi, je suis un soldat du Hito, puis vous devriez voter pour Cheveux de Prince. Et voilà. Fait que, hein?
Moi, je vois bien Titi à la tête de Concitoyens au pouvoir, mais je pense pas que ça l'intéresse.
C'est ça. Puis le seul putsch potentiel que je pourrais voir serait de Disco Dan. Ouais. Tu sais, qui sort de la headset à la dernière minute. Ouais, moroné, moi.
Non, c'est jamais. Il est imprévisible, hein?
Oui, puis il y a bien des followers.
Il y a beaucoup de followers. Quand il parle, c'est pas dans le vide.
Et là, ben, Frank, tu me permets, je vais faire un petit segue vers quelque chose, un succès souvenir, j'ai envie de dire ça, qui remonte au 31 octobre 2020.
Je sais de quoi tu parles.
Et j'ai envie un petit peu de brosser le pommier, si tu me permets, parce que je vous lis, et ne soyez sans crainte, ça fera l'objet d'une publication sur Ménage du Dimanche, probablement pour encore une fois. 31 octobre, Stéphane Blais, sur sa page personnelle, a publié ce que je vous lis. Voici ce que Xavier Camus et sa clique, Ménage du Dimanche et compagnie, écrivent ouvertement sur moi. Tous les diffamateurs vont y goûter quand je jugerai que leur temps est arrivé. Ne vous méprenez pas. Je frappe toujours lorsque le timing est le bon. Quand je frappe, c'est pour obtenir la satisfaction du chaos instantané. Vous savez quoi? Le timing est arrivé. Serpent et haut diffamateur, votre heure est arrivée. Sympathisants, sortez le popcorn.
Tu frappes comme une fillette. Stéphane, on n'a rien senti. Ça, c'était le 1er octobre. Là,
ça me fait penser au fameux sketch de Ding et Dong combiné du shadow boxing. T'sais, on espionne le vent. Et tout ça, ben là, tu boxes avec le vent parce que je vois pas. Écoute, j'attends ma mise en demeure ou ma poursuite. On attend ça. Puis, j'imagine, il y a quelques temps que je n'ai pas communiqué avec Xavier Camus, notre maître à tous, bien sûr, devant l'hôtel. Mais non, il ne s'est rien passé. J'ai rien reçu. Même que, rappelons que lors du fameux conspiratoton, nous avons eu droit à de très belles salutations, mon cher Frank. Alors, écoute, on attend toujours. Et là, ben, j'ai une question dans les actus conspies parce que, écoutez,
mais moi,
c'est
une question qui
se pose. Attends un petit peu, c'est une question qui se pose.
OK.
Cette levée de fonds-là devait se terminer le 10 avril et nous sommes, en date d'aujourd'hui, nous sommes le 18 avril et ça continue. Que se passe-t-il?
Oh, on dirait qu'on veut pas que ça finisse. Peut-être parce que l'objectif est pas assez rempli. C'était combien déjà l'objectif? Un gazilliard?
Non, c'est $1 million.
Oh, c'est le prix de la liberté des Québécois?
Ben, je sais pas, mais c'est le prix de la liberté financière, peut-être, de Maître Desjartel, je ne sais pas. ça coûte cher.
Peut-être, on ne sait pas.
Ah, mais Peter, là, il n'arrête pas, lui, pendant ce temps-là. Puis là, ben, on continue et on perpétue, bien sûr, les annonces. Parce que là, écoute, il faut que je te parle de ça, Frank, parce que c'est de relativement dernière heure.
Ah, mais t'as peu, avant d'aller plus loin, moi, j'avais une question par rapport à Camus, là. T'as-tu eu ton tatou, moi? T'as-tu, parce que moi j'ai appris la poignée secrète des disciples de Camus, mais j'attends encore. J'ai pas mon tatou. Je sais pas si c'est parce que je suis pas encore full patch.
Je l'ai pas. J'ai pas mon tatou. Okay. Mais ce que j'ai, par exemple, c'est un communiqué de presse de la Fédélat Apouette que je te lis. Oh. La Fédélat Apouette se joint au regroupement d'avocats internationaux mis sur pied par le docteur Rainer Fulmich.
en vue de poursuites éventuelles au niveau international. Ne manquez pas notre entrevue exclusive de 60 minutes avec l'avocat allemand Rainer Fulmich, qui sera diffusée simultanément ce lundi 19 avril 2021, donc demain, à 20h, sur la page Facebook de la Fédé la Tapouette et par une vingtaine d'influenceurs au Québec, Canada anglais et aux États-Unis. Eh bien, écoutez, on va être là. On manquera pas ça, évidemment. Et écoute, comment dirais-je? Bonne chance avec ça, parce que là, je pressens que ce qui va expliquer la poursuite, la continuité, évidemment, de la levée de fonds, ça va être cette annonce-là. Ah ben là, ça va nous prendre d'autres moyens financiers, là, parce que là, on va s'associer avec M. Fulmich et va de la galère, ben oui.
Non, mais c'est un Allemand, fait qu'il faut le dire comme si t'étais Rammstein. T'sais. C'est quoi, Rainer Fulmich. Ça sonne mieux, parfait, puis là, ça sonne crédible, t'sais, avec des scientifiques étrangers, avec des noms difficiles à prononcer, ça rend le propos beaucoup plus crédible aux yeux des conspis. C'est une excellente stratégie.
Dans les actualités conspis, Frank, écoute, tu peux pas me demander de ne pas parler de ça, parce que autant je trouve ça très, très comique et très, très drôle, mais en même temps, ben, j'ai envie d'un petit peu, saluer ça. Parce que pour moi, être capable de faire preuve d'humilité et de recul, c'est très important. Ce sont même des hashtags très fréquents sur Ménage Dimanche. Si vous n'avez pas vu notre vidéo qui s'intitule « Trucker Thibault et son périple, sa saga dans les terres de la Côte-Nord, à Forestville plus précisément », ben, je vous invite à le faire parce qu'il y a notre bon ami, conspitoyen notoire, Lucky Luke, qui a fait le commentaire suivant, suite à avoir vu la dite vidéo. Et il l'a même, mon cher, partagé. Excuse-moi, mon Stéphane Thibault, tu sais, toi, que je t'aime au bout, mais tabarnak, faut avouer que souvent, ce que nos adversaires, entre guillemets, concoctent pour rire de nous, c'est tordant en crise de calice. Ce sont des citations, j'insiste. Check, Stéphane, va voir les montages que Charlie Lou Lalouve a fait sur moi, Lucky Luke, sur YouTube. Je suis crampé aussi. Nous autres, on est capable de rire de nous. Ben, écoute, j'ai envie, je doute que tu m'écoutes, mon cher Lucky Luke, mais j'ai envie de te dire félicitations, beau geste d'humilité, beau geste de recul, belle capacité d'empathie envers notre travail, même si nous sommes totalement en désaccord avec la très grande majorité de tes prétentions. Ben bravo, good job. Et écoute, on te remercie infiniment de partager notre contenu. C'est très, très, très gentil de ta part et c'était surtout très apprécié. Puis écoute, j'espérais, pour tout vous dire, j'espérais vraiment que notre cher trucker Thibault voit cette publication. Alors, ben, semblerait-il, puis il est tagué dedans. Alors voilà, bien content. Achievement unlocked et très heureux de ça. L'autre grosse nouvelle, Frank, à côté de laquelle je ne peux pas passer, c'est le retour d'une vedette, d'une légende, d'une joueuse de la LMM déjà intronisée au Panthéon. Et je parle, bien sûr, d'Afon Aline. Dans une vidéo pour laquelle on a fait quand même un assez solide résumé, je pense, qui durait 40 quelques minutes à peu près, on a trimé ça à l'essentiel, c'est-à-dire 3 minutes et des poussières. Et écoute, on a évidemment la mention du fait que maintenant les tests avec les écouvillons en Chine se font par le rectum des enfants et elle prophétise que ce sera la même chose bientôt au Québec et que les parents n'en seront pas informés. Moi, je pose la question à nos abonnés, nos deep stakers, nos old stakers, est-ce que vous vous attendez que vos enfants ne vous annoncent pas qui se sont fait faire ça dans l'éventualité où ça se passerait? J'en doute fort. Puis, il n'y a pas d'indication non plus à l'effet que c'est ou ce sera le cas. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi, évidemment, retour, Frank, sur le dossier mayonnaise aux pommes un peu par la bande, parce qu'elle mentionne dans cette vidéo absolument incroyable, qui a eu beaucoup de views d'ailleurs, que la DPJ fournit des enfants aux pédophiles, entre autres choses. Et elle parle évidemment du Common Law Court qui te permet de t'auto-racheter et de changer ton nom des majuscules aux minuscules. Et c'est ponctué de « faut que vous sortiez vos enfants de l'école » et autres sornettes et balivernes. Mais la bonne nouvelle, c'est que, entre guillemets, elle a l'air d'aller très bien. Je sais pas si tu as vu ça, mais écoute, tu parles d'un retour, là. Si je fais un parallèle avec la LMM, là, Frank, là, c'est à peu près Guy Lafleur avec les Rangers. Le grand retour, la démone blanche de retour sur les interwebs. C'est absolument, mais magique et magistral d'être déplogué de même. Ça n'a aucun sens.
Combien de joueurs reviennent au jeu après une si longue absence et font un tour du chapeau direct au premier match? Moi, c'est malade. Moi, quand elle a dit que la DPJ fournit les enfants aux pédophiles, retirez vos enfants de l'école, l'école, ça sert à les brainwasher, puis ils vont vous haïr après. L'école apprend aux enfants à haïr leurs parents.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement aucun espèce de sens.
On dirait que tout le temps qu'elle a pris off, elle a accumulé la stupidité puis la bêtise, puis là, c'est tout sorti. Là. Comme un tuyau, tu sais, quand tu passes la hose dans ton jardin ou sur ton char, et tu kink, comme on dit, tu plies le boyau pour empêcher l'eau de sortir, là, ça s'accumule. Quand tu lâches, ça revole, un gros jet. Ben, c'est ça qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui avait le pied sur le boyau pendant ces longs mois d'absence et quand le pied s'est enlevé, ça a arrosé fort.
On a une autre nouvelle aussi. Je voulais conclure un petit peu les actus conspies. Écoute, il y en a beaucoup. On va avoir le live de ménage de dimanche tantôt. On va avoir d'autres sujets aussi. On vous invite à vous joindre à nous. Mais je peux pas passer sous silence une annonce qui a été faite hier, en fait, par la Fédé La Tapouette. Et là, ben, si j'ai un ton aussi solennel, c'est parce que je suis très, très déçu. Oh. Mais donc, ça a été publié le samedi 17 avril à 12h55. Et je vais vous lire ça, Frank. Communiqué pour diffusion immédiate samedi le 17 avril 2021, c'est sur la page de la Fédé La Tapouette. Par la présente, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, la Fédé La Tapouette, tient à réitérer qu'elle n'est plus impliquée dans l'organisation de rassemblements, manifestations, marches ou convois depuis novembre 2020. Bien que nous appuyons la marche Québec debout qui se tiendra à Montréal le 1er mai 2021, on va en reparler, nous tenons à réitérer que nous n'avons aucune implication, en majuscule, dans la demande de financement faite par les organisateurs de l'événement et que nous ne nous impliquons aucunement, toujours en majuscule, dans son organisation, puisque nous tenons à mettre l'emphase sur nos poursuites légales et alliances légales au niveau provincial, national et international. C'est pas fini. Nous tenons également par la présente à remercier Benoît Perfecto, je viens de l'ajouter, Boisvert, pour son travail à la Fédé La Tapouette depuis septembre 2020, puisqu'il nous a annoncé le 29 mars 2021 sa démission comme administrateur en invoquant des récents problèmes de santé. Oui. Merci Benoît pour ton implication dans cette cause qu'est la défense de nos droits et libertés. Prends soin de toi. Bon week-end à tous et n'oubliez pas qu'il faut se mobiliser massivement et rester fort et unis. Équipe Fédé La Tapouette. On souhaite évidemment un très prompt rétablissement à M. Benoît Perfecto Boisvert. Pour ceux qui se demandent pourquoi on l'appelle Perfecto, Frank, c'est vrai qu'on n'est pas super bon pour expliquer pourquoi on appelle du monde d'une certaine façon. Fait que on va
se ramener une fois de temps en temps.
Ouais. Fait que Benoît Perfecto Boisvert, ça date évidemment du gigantesque long de 7000 kilomètres, le convoi de la Fédé La Tapouette avec hélicoptère en prime. Et il en était l'un des co-organisateurs. Et lorsqu'il s'est retrouvé en Zoom, un peu on location, ben, à un moment donné, « Hey, salut Benoît, comment ça va? Yes, sir! Hey! » Ben Benoît, lui, quand il s'est fait donner des instructions, il a fait que « OK, on part en 5 minutes », il a répondu « Perfecto ». C'est de là que lui vient son surnom. Des fois, les surnoms qu'on trouve, il n'y a pas de, c'est pas du rocket science.
Il n'est pas obligé d'avoir un sens profond. Non, c'est quelque chose qui marque puis qui rend le personnage drôle. Puis ça, Perfecto, le monde disait ça en 92 puis c'était cool. Puis lui, ben, il est resté là.
Et là, écoute, y a-t-il une petite polémique? Parce qu'écoute ça. Alors que la publication était publiée à 12h55, c'est à 13h18 que bom, 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 Disco Dan Pilon se pointe dans le fil de la conversation. Et je te lis ça. Et il n'y a pas, c'est out of the blue comme ça, c'est pas un thread, là, c'est la première réponse de Disco Dan à ça.
Go.
Tu devrais plus, évidemment, hein, il s'adresse à la fée des Latapouettes, il lui parle à la première personne. Ça n'a okay. pas d'allure, là.
Salut, fée des Latapouettes.
Si le putsch s'en vient, Frank, j'ai un failing.
Un failing?
Ouais, j'ai un failing, OK? Tu devrais plutôt dire au début qu'on avait parlé de 5 000 $. Ensuite, vous avez descendu à 2 500 $ et que finalement, on a décidé de s'arranger seul. On était d'accord que vous ne soyez nullement impliqué dans l'organisation. Continuez votre bon travail. Mon interprétation, Disco Dan sent, parce qu'il est un des co-organisateurs de la marche du 1er mai, il sent que c'est à lui que s'adresse le communiqué de presse parce qu'ils veulent pas être associés à sa patente à gosse. Right? Écoute bien la réponse de la fée des Latapouettes par la suite. Et tout ça, vous pouvez le lire, c'est encore là, dépêchez-vous. Tiens, même on va faire quelque chose de spécial, Frank. Je vais faire passer cette conversation maintenant à l'histoire.
Oh.
Parce qu'au moment où je te parle de tout ça, je la screen grab.
Oui, voilà. Avant que ça pousse.
Alors, la Fondation lui répond, et ça, la réponse a lieu, quand même assez rapidement, à 13h18, 13h34, 16 minutes plus tard. Dan Pilon, bien que la résolution du CA de la Fondation faite au début avril 2021 indique une volonté pour nous de subventionner les toilettes chimiques jusqu'à concurrence de 2 500 $, nous avons été avisés par Samuel que votre levée de fonds est suffisante pour l'événement et que vous n'acceptez aucune subvention de quelconque organisation que ce soit pour cet événement. L'équipe vous souhaite un taux de participation record. Deux affaires, Frank. OK, deux affaires. La première, il y a eu une résolution du CA au début avril 2021. Donc, Stéphane Blais a jasé avec Coach Dan puis a dit « On va faire ça ». Tu peux pas avoir une résolution à deux personnes. Hey, Coach Dan, on va faire ça. 2 500 $, les chiottes, le 1er mai, t'es-tu down? » Oui, OK, parfait. C'est ça la résolution. Parce que si on lit bien le communiqué de presse, c'est au mois de mars que, c'est en fait le 29 mars 2021 que Monsieur Boisvert, bon, est-ce qu'elle a été effective le 29 mars? Je le sais pas, mais vous allez avouer que c'est drôle pareil. Et la deuxième affaire, faut-il considérer comme un geste freudien, Frank, que de tous les apports financiers que la Fée des Latapouettes aurait pu apporter à la manifestation du 1er mai, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de payer les chiottes. Est-ce qu'on peut interpréter ça d'une quelconque façon? Tu sais, ils peuvent faire plein d'affaires. Ils peuvent payer de la pub sur Facebook. Il y a plein d'affaires qu'ils auraient fait. Oh, on va financer tes bécosses. Oui, ça me fait broyer. Mais j'ai une suggestion à faire à la Fée des Latapouettes. Vous avez vu qu'on a eu Trucker Thibault qui est en train de sillonner le Québec au volant de sa Maillet mobile. Moi, j'ai une idée pour vous autres. Ça va solidifier son setup aussi, sa boîte sur le top, là, puis t'entends ça shaker quand il roule, ça n'arrête pas. Prenez le 2 500 $, puis mettez la toilette chimique sur le top de sa cossin. Comme ça, ben, il va avoir une toilette avec lui en tout temps. Il ne sera pas obligé de subvenir à ses besoins écologiques dans la gêne. OK? Installe ça sur le top, mon trucker, puis là, ben écoute, là, tu vas te faire remarquer. C'est un moyen temps. Puis là, une chimique, ça dure longtemps là, quand même. Là, tu sais, tu peux être correct pour un bout. Fait que, écoute, je sais pas c'est quoi ton interprétation de ça, Frank, mais je suis obligé de te dire que j'avoue que je trouve ça un petit peu weird. Là, tu sais. Dan organise une grosse patente, la fait des Latapouettes est souvent en live avec lui, il l'invite, ils vont, ils le reçoivent, ils font une levée de fonds, ils l'invitent, mais les manifestations, là, ça, non. Puis là, ben, tu sais, ça aurait pu être interprété comme on n'est pas associé à ça, on va le savoir. Mais c'est Disco Dan qui avoue que c'était pas le cas. Vous aviez dit 5 000, puis là, finalement, c'est 2 500. Puis eux autres, ils répondent, non, c'était bécosse. Fait que tu l'étais impliqué si tu te sens obligé de faire un press release de ce genre-là. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, je capote-tu, moi?
Non, alors, ça ressemble à ça. Puis je peux te dire que si je croise son char puis qu'il y a une bécosse dessus, je vais être tenté d'aller faire mes besoins au-dessus de sa tête.
Ouais, ouais, OK, mais là, t'as mélangé deux affaires. Là. La bécosse sur le top, ça, c'est pour la maillette mobile. T'sais. Fait que s'il n'avait pas voulu s'impliquer dans une manifestation comme ils viennent presque d'avouer de l'avoir faite, mais que ça a changé, ben non, prenez le 2500 puis donnez à Chimique à Trucker Thibault qui met ça sur sa Volvo puis là il va voir le full équipe là. Parce qu'on l'a vu dans la vidéo qu'on a faite, il dort dans son char depuis deux semaines. Ça sa stratégie pour pas se faire expulser d'une région. Tu peux pas m'expulser nulle part, je dors dans mon char.
Il va pas à l'hôtel, il va pas chez personne.
Que je peux pas? Veux-tu gager que je peux pas t'expulser, mon chum?
Non, mais les conspis, là, quand ils se pensent brillants, puis ils disent « Ah, j'ai droit parce que ils font un trou dans leur masque. » Ben, ils essaient de contourner la loi. Ils ont juste l'air d'un flou qui dit à sa mère qui veut qu'elle aille se coucher. « Ah, c'est pas long, il faut que je shave ma game, là. Il faut vraiment que je shave avant, là. Laisse-moi juste... » Elle dit « OK. »«
Elle dit
« OK, save ta game, puis va te coucher après. » Puis il dit « Ah, ben là, je peux pas saver tout de suite, là. Faut que je finisse ça. » Puis là, il joue, puis il en profite, puis il pense qu'il tire l'élastique, puis maintenant, elle arrive, puis elle tire sa plaque du PlayStation.
«
On va avoir bientôt des cas de « j'ai pas savé ma game », là, d'avoir des crises du bacon, là, genre « ben là, je pensais qu'il avait le droit, tu m'avais pas dit qu'on n'a pas le droit de coucher à mon genre », puis tu sais, c'est le même raisonnement, c'est des ados, c'est des enfants.
Là, ça fait le tour de mes actus conspi, Frank, sauf que il y a plein d'autres sujets, puis on va s'en faire suggérer dans le live tantôt, mais
ouais.
Ma citation de la semaine.
Vas-y.
Je vais mettre de l'effet, OK? Fait que parle pas, ça tue mon effet, puis c'est pas beau. Mais non, mais tu vas comprendre. Ma citation de la semaine provient de Trucker Thibault s'adressant à un constable de Forestville de la SQ en expliquant ce qu'il a dit pour expliquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas quitter la région. J'ai été invité, moi, à cette manifestation-là. J'ai un contrat avec le peuple. Alors voilà, c'était votre citation de la semaine. Moi, je me considère comme faisant partie du peuple, Frank.
As-tu et signé?
Trucker, si jamais tu écoutes ça, parce que tu fais bien de la route, hein, tout le temps d'écouter des podcasts, tu n'as pas de contrat avec moi. Je ne veux pas que tu considères que tu fais quoi que ce soit pour moi, parce que toi, tu te promènes d'une région à l'autre en toute impunité, puis tu pognes l'étiquette, puis tu en ris, puis c'est pas grave, puis tu te fais arrêter, puis tu te fais escorter au traversier, puis tout le kit. Ben moi, le choix que j'ai fait, c'est de pas quitter ma région, puis de bourrasser chez nous, puis à cause de ça, ça va faire deux ans que j'ai pas vu ma mère. Fait que regarde, si t'en as d'autres, des idées de génie, de même, là, de m'inclure dans tes patentes à gosse, là, oublie donc ça. Parce que, tu sais, bof, tu sais.
Moi, je veux donner un conseil. Si tu veux t'attirer la clémence de la sympathie du policier qui t'intercepte, commence pas en disant « C'est quoi ton matricule? » Premièrement, tu crisseras rien avec son numéro de matricule. Tu l'oublies en même temps qu'il te le dit. Ça sert à rien. Puis t'as pas l'air cool, puis tu t'aides pas. En partant en disant ça, dire à un policier, quand il arrive « C'est quoi ton matricule? » C'est la même chose que dire « Tu vas avoir du trouble avec moi. » Prépare-toi à être de mauvaise humeur. Le policier va tout de suite sa défensive. Il se dit tout de suite. Bon, dès qu'il entend, hey, c'est quoi ton matricule? C'est comme, un autre. Tout de suite, là, à place de dire, ah, ben, je vais aller voir, je vais jaser avec, je vais dire comme, bon, un esti. Fait que, en partant, là, tu te mets dans une très mauvaise disposition, tu deviens un esti aux yeux du policier en disant ça. Puis, je le répète, tu crisseras rien avec son numéro de matricule. C'est tout ce que j'avais à dire.
Hey, Frank, moi, là, je suis dû pour... J'aimerais ça que tu mettes une toune, là, tu sais, qui va me mettre dans des bonnes dispositions, de l'amour, des bonnes vibes. T'as-tu ça? Quelque chose?
J'ai la toune parfaite pour toi, Martin. On va s'entretenir avec une personne que t'as invitée, à qui on a donné le nom de code One Love, qui est aussi le titre d'une chanson de Bob Marley qu'on écoute à l'instant. C'est le Crachoir, épisode 156. One Love. Let's Le crachoir épisode 156, One Love. Martin, on a One Love au bout du fil, en fait, au bout du Zoom. Peux-tu nous introduire cet invité-là? Parce que c'est ton idée, puis c'est une maudite bonne idée.
Ben écoute, en fait, je suis super content qu'on l'ait avec nous autres, parce que One Love est paramédic, et il est aussi dépisteur. Et ma première question, ben premièrement...
Pour la Ligue nationale?
Exact, oui, absolument. Mais en fait, il est plutôt dépisteur dans l'anti-LMM. Vous allez comprendre pourquoi. Mais de premièrement, mon cher One Love, bienvenue parmi nous. C'est bien gentil à toi d'avoir accepté notre invitation. Et deuxièmement, on sait tous ce que fait un paramédic, mais j'aimerais que tu expliques pour le bénéfice de nos abonnés et auditeurs, auditrices, ce que fait un dépisteur.
Oui, ben salut tout le monde pour commencer. Merci de l'invitation. Alors, un dépisteur, en temps de COVID, c'est pas compliqué. On dépiste les gens en faisant des tests nasopharyngés pour savoir s'ils ont la COVID, oui ou non.
Voilà. Ça, c'est la fameuse grosse paille dans le nez là, pour percer la membrane du cerveau. Là.
Oui, la tige 5G, puis c'est ça.
OK. Oui, c'est ça, la tige 5G. Faut bien nommer les choses.
Là, est-ce que je veux vraiment là, qu'on fasse ça super pédagogique, One Love, le plus possible? Là, c'est-à-dire que là, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'écouvillon? Est-ce que c'est ce truc-là, le dispositif dont tu te sers pour faire ça?
Oui, exactement. On appelle ça un écouvillon souple. Donc, okay. Ça veut dire que quand tu sors de son sachet qui est stérile, en fait, tu sors l'écouvillon juste au coup d'œil, il a envie de casser tellement que c'est fragile. Donc, il n'y a pas de... On peut pas perforer quoi que ce soit. Là.
C'était ma prochaine question. C'est comme la grosse croyance là, que les conspis se partagent, comme quoi c'est dangereux de se faire percer une membrane qui protège le cerveau par cette tige-là. Est-ce qu'il existe vraiment un risque, ou bien c'est zéro? Là?
Mais la croyance que les gens y ont, c'est quand on rentre par le nez, on a l'impression qu'on rentre vers le haut parce que le nez... Mais en fait, on rentre en ligne droite et on descend parce que le nasopharynx et la gorge, je vais le simplifier comme ça, c'est relié ensemble. C'est pour ça, des fois, on peut rire et on peut recracher de l'eau par le nez. Là. Mm-hmm. C'est relié ensemble. Donc non, ça ne monte pas vers le cerveau, ça descend vers la gorge.
Il ne faut pas se fier à l'orientation du nez pour s'imaginer comment ça se passe. Quand vous allez chez le médecin, il y a tout le temps des coupes transversales de corps humain là, sur des beaux posters. Là. Regardez comment c'est fait, les sinus, tout ça, où c'est que c'est situé. Le canal, là, il s'en va pas dans le cerveau. Fait que, donc, risque zéro pour le cerveau fragile des conspis, c'est ça?
Exactement.
OK. Là, après ça, là, One Love, toi, t'arrives, tu prends cet écouvillon-là. Je veux que tu nous expliques là, de la façon la plus simple et précise possible là, ce que ta manipulation après que tu as été prendre l'échantillon dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu fais avec? Comment ça se déroule?
Une fois que le prélèvement est fait, ben, tout d'abord, il faut comprendre que tout est stérile dans un centre de dépistage. Là. Tout est désinfecté avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Là. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Une fois que le prélèvement est fait, l'écouvillon s'en va dans un tube avec une solution saline. C'est de l'eau saline, dans le fond. On trempe, on met l'écouvillon là-dedans, on referme le bouchon, on désinfecte le tube, change nos gants, désinfecte nos mains, puis là, on colle nos étiquettes, puis on met ça dans un sac stérile, puis c'est parti.
OK, ça, c'est entre chaque opération. Et là, oui. Parce que là, il faut qu'on soit archi précis. Là. Donc, tu as un genre de cabaret à roulette à côté de toi, puis là, les tubes que, dans lesquels tu vas... Est-ce que les tubes, c'est toi qui mets la solution saline dedans? C'est déjà dedans? C'est quelqu'un d'autre? Comment ça marche?
C'est les compagnies, dans le fond, qui fournissent les tubes. C'est le fabricant qui met la solution saline à l'intérieur. Okay. Nous, on a juste le tube. Puis, c'est ça, on met ça là-dedans, puis c'est terminé.
Bon, après ça, ben là, toi, là, on a parlé de la technique de la chose. Maintenant, explique-moi un peu comment ça se déroule. Tu sais, là, t'es où? Okay? T'es-tu dans un gymnase? T'es-tu dans la salle d'urgence? T'es-tu dans une aile particulière de l'hôpital? Après ça, comment ça se déroule? Il y a des gens qui accueillent les personnes qui se présentent pour subir leur test de dépistage. Il y a des line-up. Comment ça marche?
Ben, il existe plusieurs centres de dépistage. Il y a des centres, en fait, que c'est. Moi, je suis dans un centre communautaire. Okay. Si tu vas à l'urgence, exemple, tu dois être hospitalisé, eux, ils vont te faire un test là. Il y a des centres de dépistage que c'est comme commande à l'auto, là. Ils font ça dans ton char. Il y en a, des cliniques mobiles.
Mais parle-nous précisément du tien, là, OK? Fait que toi, t'es dans un centre communautaire, les gens se présentent, ils ouvrent la porte, ils rentrent, qu'est-ce qui arrive après?
On va partir du point A au point B, là, à la sortie. Ouais. Quand les gens rentrent, ils se désinfectent les mains pour une première fois, retirent leur masque qu'ils ont sur eux, se désinfectent les mains une deuxième fois, met un masque qu'on leur donne, se redésinfectent les mains pour une troisième fois. Ensuite, ils sont dirigés vers l'accueil, vers l'admission, où ce que là, on prend leurs coordonnées pour sortir leur étiquette, tout. Une fois que ça c'est fait, on les appelle. Quand leur tour vient, on les appelle. Ils s'en viennent à notre place pour se faire dépister. Donc, ils s'assoient. Moi, je valide si c'est la bonne personne. Je prends mon écouvillon, je prends mon tube, je leur donne un petit mouchoir pour la petite larme qui coule, parce que c'est un corps étranger dans le nez quand même. Ouais. Couler des yeux un peu. Je leur fais le test. Après ça, moi, quand mon test est fait, je remets l'écouvillon dans le tube, je ferme, je change mes gants, je me désinfecte les mains. Là, le client, lui, il part. Il s'en va à la sortie. J'y donne les consignes, la poutine à suivre. Ensuite, il part, il se désinfecte les mains une première fois, jette son masque, sort désinfecte une deuxième fois les mains, remet un masque, sort désinfecte une troisième fois les mains, puis là, il peut partir.
Okay.
Entre-temps, quand moi, j'ai mon tube est fait, là, tout, je change mes gants, je me lave les mains, je me remets une paire de gants, je désinfecte le tube, je le mets dans un rack pour qu'il sèche, on parle d'une minute à peu près. Je change mes gants, je me désinfecte les mains, je mets mon étiquette, je me remets des gants, je mets mon étiquette, je mets ça dans le sac, je me change les gants, je me désinfecte et je remets une paire de gants stériles, je referme le sac et là, je mets ça dans une glacière puis ça part au laboratoire.
Wow. L'expérience pour le bénéficiaire ou le client, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça fait mal? C'est juste un inconfort? Est-ce que des gens qui ont peur, qui sont nerveux, qui sont crispés? Comment ça se passe avec les gens? Est-ce qu'en général, les gens ont peur de ce test-là?
Oui, ben c'est relatif, c'est dans tout. Hein. Ça dépend toujours du préleveur qui va te le faire. Ça dépend toujours de ta position à toi. Tu sais, moi, c'est facile pour moi de dire aux gens, restez détendus, je vous rentre un écouvillon 4 à 6 cm de profondeur vers le bas. Tu sais, c'est sûr que... Mais en général, j'ai eu beaucoup... Personnellement, à moi, parce qu'il y a du monde, j'en ai testé vraiment beaucoup. Là. J'ai eu plus souvent des commentaires du genre, hey, je pensais que ça allait faire vraiment plus mal ou je pensais que ça allait faire mal, tu sais. Mais si tu restes décontracté, relax, la mâchoire ouverte, on leur donne des trucs. Mm-hmm. Écoute, c'est 10 secondes dans le nasopharynx, dans le nez. Là. C'est pas. Mais il y en a, tu sais, c'est sûr. Exemple, moi, j'en ai qui ont eu mal, là, c'est que je leur rentre l'écouvillon, mais eux, ils reculent en même temps. Mais là, c'est sûr, moi, il faut que j'avance. Là, des fois, ils reculent, après ça, ils avancent. Mais moi, je t'en. Mais c'est sûr que ça tape, là. C'est sûr que ça cogne à mener sa paroi, là. C'est deux
si tu donnes des coups de tête, oui, je comprends que... donc l'idéal, c'est de rester calme et détendu. C'est pas dangereux, puis c'est le test qu'on fait au Québec. Il y a une certaine leader conspirationniste d'un groupe qui s'appelle Québec avec un K, qui disait que les Chinois faisaient ça dans, et je la cite, le rectum. Pourquoi est-ce qu'on fait ça dans le nez? Là, je dis pas que c'est vrai que les Chinois font ça, je le sais pas, là. Mais pourquoi ce test-là, il est comme ça? Pourquoi c'est pas une prise de sang, un petit peu de salive? Je sais pas si c'est dans, si t'as la réponse, je vais pas te mettre en boîte, là.
Ben, moi, selon l'information que j'ai, c'est sûr, moi, je suis pas microbiologiste ou quoi que ce soit. Là. La réponse que j'ai là-dessus, c'est que le virus, il serait plus facile à détecter là. C'est ça. C'est l'information que j'ai. Fait que moi, j'ai ça.
OK. C'est ça. On fait pas ça là pour le fun. Là.
Non, exactement. Tu sais, je veux dire, quand tu fais le test pour l'influenza aussi, c'est un prélèvement nasopharyngé qu'on fait. C'est l'endroit qui a le plus de cellules qui serait là.
Oh, attends un peu, là. Ça, c'est super important, ça, ce que tu viens de dire, là. Parce que tu viens de dire que, dans le fond, l'influenza ou la grippe ou la grosse grippe, le test se fait exactement de la même façon. Et si on se fie sur le narratif de nos amis conspitoyens et conspitoyennes, bien, ça, cette affaire-là serait utilisée pour traverser la membrane encéphalo-machin et dans le but d'instaurer ou d'installer la puce 5G. Ouais. Donc, tu pourrais venir, One Love, de découvrir un subterfuge absolument incroyable qui serait que ça se déroule depuis le début des tests par écouvillon de l'influenza.
C'est un nouvel élément.
Comment se fait-il qu'à cette époque-là, on ne criait pas au complot mondial?
Écoute, c'est une bonne question, puis d'autant plus que l'écouvillon qui est utilisé, c'est un écouvillon rigide pour l'influenza. Donc,
c'est pas la même chose. C'est encore moins agréable, on va le dire de même.
Exactement.
C'est vraiment super instructif. Puis là, ben ça, j'aimerais ça que tu expliques, One Love aussi, corrige-moi si je me trompe, mais c'est pas nécessairement dans le cadre de tes fonctions. C'est toi qui as décidé de faire ça, là.
Oui, exactement. Moi, il y a eu un appel à tous par manque, parce qu'il y a du délestage, il y a un manque de main-d'œuvre au Québec. Puis nous, on a eu un décret gouvernemental qui nous autorisait à aller prêter main-forte. Fait que moi, ben, j'ai décidé d'aller prêter main-forte dans les centres de dépistage. Je pourrais aller à la vaccination, mais là, moi, ma part est faite, là, je trouve, là, de mon côté.
Ouais,
parce que je fais quand moi, je fais ma part sur le terrain, comme on dit, mais tout ça, s'il y a personne qui m'a mis un gun sur la tempe pour y aller, ça, c'est sûr et certain, mais par souci de solidarité envers mes confrères et consoeurs dans le domaine de la santé, je suis allé.
Ben merci de faire ça, un, puis deux, ben de nous démystifier un petit peu, en tout cas dans ton contexte à toi, là, juste pour qu'on soit précis, ça ne veut pas dire que le récit que One Love vient de nous en faire signifie que ça se passe exactement de la même façon partout, parce qu'il y a des centres qui sont en centre hospitalier, il y en a d'autres, c'est service à l'auto, il y a toutes sortes d'affaires, mais toi, pis j'imagine que dans des il doit y avoir beaucoup de régions que justement, le centre de dépistage, tu sais, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, ça doit être dans des centres communautaires et des affaires comme ça. Fait que merci, ben gros, pour cette affaire-là. Maintenant, on va te parler en tant que paramédic maintenant. Parce que moi, ça m'intéresse parce que, tu sais, on va se le dire, dans beaucoup de cas, et encore une fois, corrige-moi si je me trompe, est-ce que il arrive que ben, si vous êtes la première ligne du système de santé, souvent, tu sais, si vous recevez un appel, vous vous présentez là-bas, tu sais, t'es le premier sur la ligne, là, OK? Dans le contexte de la COVID, puis je veux pas que tu nommes de nom à rien, mais explique-moi comment ta job de paramédic peut-être avoir changé depuis la dernière année. C'est ça, là, parce qu'on s'entend qu'il y a encore des infarctus, il y a encore des accidents d'auto, il y a encore tout ça. Mais de quelle façon, en tant que paramédic, ça a changé pas juste ta façon de travailler, ta job en tant que telle? Là. Je sais, à ce temps, il faut que tu te laves les mains, te le quittes, sur ça, on comprend, mais le reste, là.
Ben, c'est que tout a changé. Dans le sens que nous on est régi par des protocoles, là. C'est sur certains types de patients on doit mettre plus d'équipements de protection, d'autres non. Le port du masque c'est obligatoire en tout temps, là. Ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui a changé le c'est un peu la confiance envers les gens dans le sens que tu sais quand les gens appellent le 911, ben ils ont un questionnaire COVID. puis des fois, ils répondent pas aux bonnes informations. Puis là, nous, on est un des rares travails qui existe qu'on a le privilège de rentrer dans la vie personnelle des gens, puis dans des situations un peu de vulnérabilité. Fait que nous, on rentre là-dedans, puis on doit refaire le questionnaire COVID. Moi, je trouve, tu sais, des fois, on se fait revirer de bord assez solide. Là, non, je n'ai pas le COVID. Ouais, mais moi, je te connais pas, tu sais. Je sais pas si tu l'as ou pas. Je te pose juste la... Écoute, il y en a que ça l'offusque de se faire poser la question si tu as de la fièvre dans les derniers jours. Oh, ouais. Il y en a que ça les insulte. Puis, non, je n'ai pas le COVID. Mais oui, mais je te connais pas. Je te connais pas, tu me connais pas. Fait que. Puis, nos façons d'intervenir. Moi, avant, ben, tu sais, faire du RCA sur quelqu'un, pas de masque, c'était quelque chose. À cette heure, avec un N95 ou un P100, ça change la game. Au début de la pandémie, c'était entre chaque patient qu'il fallait faire une décontamination complète du véhicule. Ça retardait des appels parce qu'il fallait tout désinfecter au complet le véhicule ambulancier. À cette heure, comme tout change, les études sortent, là, si vous n'avez pas de patient confirmé ou qu'il n'y a pas, il est pas suspecté ou quoi de même, ben, t'as pas à désinfecter l'entièreté de ton ambulance entre chaque appel.
Ça s'est assoupli?
Un petit peu, ouais, un petit peu. Mais les mesures sont toujours là, tu sais. Puis, on n'est pas à l'abri. Moi, tu sais, quelqu'un, personnellement, moi, j'ai déjà arrivé au chevet d'une personne. Ça faisait 15-20 minutes qu'on discutait. Puis, après 15-20 minutes, elle me dit, j'ai reçu une lettre de la santé publique. Là, j'ai la COVID. Mais, tu sais, en début, j'y demandais si elle avait des symptômes. Puis, elle me disait non. Puis, si elle avait été en contact, elle me disait non. 15 minutes plus tard, elle me lâche ça comme ça. Oh, j'ai la COVID, là. C'est parce que là, ça change un peu l'histoire. Ben, moi, je ramène ça chez nous, là. Je veux dire, je ne suis pas immunisé. Je suis pas. Il y a un risque pour tout le monde. Là.
Est-ce qu'il y a des gens atteints de la COVID qui restent chez eux et qui ont besoin d'un transport ambulancier à cause de la COVID? Est-ce que ça arrive que tu amènes des patients à l'hôpital à cause de leurs symptômes de COVID?
Fréquemment, là, oui. C'est nous qui transportons les gens vers les centres hospitaliers. Puis dans les régions, ben quand les patients sont... Parce que là, il y a plein d'affaires là, à débunker sur ça, là, l'affaire là, des centres hospitaliers au Québec. Puis,
allons-y.
C'est pas tous les centres hospitaliers qui sont centres receveurs COVID. Okay? Il y a des régions que ils vont avoir 10 centres hospitaliers dans leur région, mais qu'il y en a un qui est spécialisé puis que c'est comme le receveur. Puis après ça, ils sont transférés vers Québec ou Montréal. Tu sais, c'est là les gros centres.
One Love, je vais juste arrêter là. Ça, tu dis ça dans le contexte de, je te donne un exemple, du monde qui prétend, ouais, t'es allé à l'hôpital, le gros, puis il n'y a pas par ça, il n'y a pas un choix, puis là, tout le monde se posait à COVID. Right. Toi, c'est dans ce contexte-là que tu dis ça. Ce que tu dis, il est possible qu'un concitoyen se soit rendu à l'hôpital parce qu'il avait affaire à y aller, puis là, il constate que c'est pas aussi plein que tout le monde le prétend à cause de la COVID. C'est juste parce qu'il est pas dans un centre hospitalier qui reçoit des patients qui nécessitent des traitements contre la COVID. Là.
Exactement. Puis il y a une affaire aussi qu'il faut mentionner. Quand on entend toujours, les urgences sont vides, la salle d'attente est vide, mais une urgence, ça se compte pas selon la salle d'attente, ça se compte selon les lits en arrière qui sont occupés. C'est le taux d'occupation dans les lits arrière, dans l'urgence arrière.
Parce que t'as la salle de réanimation.
Non, c'est pas là que ça se compte, ça. Puis les patients qui sont classés P5 dans le triage à l'hôpital, la plupart vont être redirigés vers une clinique où ils vont prendre rendez-vous avec un médecin.
Ça veut dire quoi, P5, priorité 5?
Priorité 5, oui, ça veut dire, exemple, tu vas arriver... Frank, là, tu vas avoir un pied cassé. Puis P1, c'est genre, je fais un arrêt cardiaque.
OK, c'est l'ordre de
gravité. C'est la gravité, exactement.
OK.
Mais tu sais, le but, c'est de ne pas avoir de monde à l'urgence. T'sais. Le but, de ne pas avoir de monde pour rien. Et tu sais, souvent, on regarde les salles d'attente et on dit, mon Dieu, c'est plein. Ouais, mais t'as peu, là, sont pleins. Mais t'as une personne, t'as un accompagnateur. T'as une autre personne, t'as un accompagnateur. Fait que là, tu penses que la salle est pleine. Mais au final, tu as beaucoup d'accompagnateurs qui sont là, puis le but, c'est de ne plus avoir cet achalandage-là, en fait.
Bon, je veux te poser une autre question, tant qu'à t'avoir, mon One Love. Tu sais, toi, ça t'arrive, et c'est tragique, c'est plate, c'est triste, d'arriver sur des lieux où il y a des décès. T'sais, tu peux arriver sur le site d'un accident d'automobile, il y a 2-3 personnes impliquées, puis des fois, il n'y a rien que vous pouvez faire, la personne est décédée sur place, a perdu la vie. Fait que ça fait en sorte que, dans une certaine mesure, tu peux commenter sur ce que je m'apprête à te dire et te poser comme question. La fameuse histoire des autopsies. OK? Puis pourquoi que je te pose la question? C'est parce que toi et moi, on en a déjà discuté et j'ai adoré la façon dont tu as expliqué les choses. C'est que, tu sais, moi, je fais souvent le gag. Je dis, ben oui, c'est ça, il n'y a pas eu d'autopsie pour un cas de COVID. Ben regarde, si vous dites que c'est une grippe, avez-vous est-ce qu'il y a eu des autopsies pour les grippes aussi? Puis bon, j'aimerais ça que tu nous expliques dans tes mots. Puis t'es pas coroner, là, on s'entend, là, mais on se comprend. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques dans tes mots pourquoi les raisons qui peuvent justifier le fait de ne pas avoir à faire une autopsie. Puis je veux pas qu'on tombe dans les comorbidités puis dans toutes ces affaires-là. Je veux vraiment que, tu sais, que ce soit pour la COVID ou d'autres choses. Ce ne sont pas tous les décès qui nécessitent une autopsie. Pourquoi?
Ben, écoute. Moi, d'entrée de jeu, moi, ça fait 8 ans que je suis paramédic, puis en 8 ans, je n'ai jamais transporté quelqu'un pour une autopsie. Ça m'est jamais arrivé. D'un décès là, pour une autopsie, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi? Une autopsie, c'est une question. Il y a une question d'éthique derrière tout ça. Hein? On ne fait pas une autopsie à monsieur, madame, tout le monde pour le fun. Là. Ça prend des critères, ça prend des raisons.
Ça serait profaner un corps.
Ben, tu sais, je veux dire, on ne s'acharne pas pour rien si on n'a pas un doute de quelque chose de suspect. Mm-hmm. Exemple, un gars de 30 ans, que ça fait une semaine qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Maintenant, la famille décide d'appeler la police. Va voir chez eux, le gars, il est retrouvé à terre, il est mort, on sait pas que ça fait combien de temps, écoute, on a beau évaluer, on trouve pas de cause, il va avoir une autopsie, c'est sûr, là, il y a 30 ans, tu sais, c'est sûr.
C'est ce qu'on appelle une mort suspecte, là.
Exactement. Quand c'est suspect, il peut avoir, il va avoir fort probablement une autopsie, tu sais. Mais quand on n'a pas de raison de croire que c'est pas une cause naturelle, ben, il n'y a pas d'autopsie qui se fait. Là. On faisait pas des autopsies sur toutes les morts avant la pandémie. Donc, si on ne continuera pas à en faire demain.
Si je résume, les motifs qui vont justifier une autopsie ne sont pas souvent de nature médicale, mais plus de nature judiciaire.
Ben, ça peut être ça. Tu sais, oui, là, comme Martin a dit, je suis pas coroner. Mais... écoutez,
moi, non, mais de ce que tu vois qui travaille dans le secteur de la santé, là, je veux dire, c'est pas. Tu as certainement un point de vue plus pertinent que nous autres, là, ça c'est clair.
Ben, tu sais, c'est ça. Ça prend toujours une cause à savoir est-ce qu'on trouve ça. Tu sais, moi, quand je fais parce qu'on fait des constats de décès, des paramédics, on appelle ça un constat de décès à distance. C'est un médecin qui diagnostique selon l'information qu'on lui rapporte. Puis dans notre questionnaire, on a toujours un endroit est-ce que la famille veut une autopsie, oui ou non? Puis, les policiers trouvent la mort suspecte? Donc, si on dit que la mort est suspecte, on va transporter le corps automatiquement, c'est sûr et certain, il n'y aura pas de constat de décès de fait. Là, ça va être amené, puis il va y avoir une autopsie, puis il va y avoir, une évaluation d'un médecin qui va checker. Là.
J'ai une autre question en lien avec ça. Même concept. Tu es un travailleur du secteur de la santé. Est-ce qu'à ta connaissance, est déjà venu jusqu'à toi, parce que tu côtoies des médecins, tu es à l'urgence ou dans les centres hospitaliers souvent et tout ça, est-ce qu'à ta connaissance, en ta qualité de travailleur du monde de la santé, tu as déjà entendu parler d'un médecin qui se serait fait payer pour déclarer un décès de la COVID?
Non, c'est tellement stupide. Écoute, moi, les gens qui disent ça, je serais invité à leur dire, prouvez-le donc que c'est vrai. Je vois pas pourquoi ce serait à nous de prouver que c'est faux. Qu'il prouve que ce soit vrai. Écoute, poser un diagnostic, ça prend un portrait clinique, ça prend une rigueur, ça prend... Écoute, c'est une question d'éthique. Tu peux pas mettre un diagnostic pour le fun sous prétexte d'être payé. C'est un peu illégal, en fait.
Oui, il y avait eu des chiffres. Il y avait des chiffres, genre 3 000 $ qui avaient été avancés. Ben oui, 8 000 $, m'en ai, j'ai entendu. Là.
C'est non, là-dessus, le fardeau de la preuve est sur ceux qui font cette affirmation-là qui sort de nulle part, là, qui est carrément juste du conspi talk, là, comme j'aime le qualifier.
On n'a pas à prouver l'inexistence de quelque chose, c'est à eux de prouver l'existence de quelque chose. Voilà.
C'est ça, le fardeau de la preuve n'est pas sur nos épaules.
Voilà. J'ai une autre question pour toi, mon One Love. Comment, tu sais, je t'ai demandé dans l'exercice de tes fonctions, comment ça avait changé, mais là, je te pose la même question, mais dans un tout autre contexte. Comment sens-tu, toi, que la perception des gens a changé par rapport au fait que vous êtes que tu es paramédic et la perception que les gens ont des travailleurs de la santé, mais particulièrement dans ton cas. Je m'explique. Tu sais, des paramédics, ils sont pas toujours sur des appels. Des fois, on vous voit stationner au team, vous travaillez, vous êtes pas en train de mettre garde ou vous êtes dans un centre où est-ce que vous vous retrouvez tous qui sont sur ce chiffre-là, vous attendez que les appels rentrent et tout ça. Mais quand tu es dans ton véhicule, vous faites faire apostropher des fois par des concitoyens, concitoyennes, vont dire « gang de vendus ». C'est un peu comme les policiers, mettons, quand ils vont juste, tu sais, faire un périmètre autour d'une manifestation pacifique. Est-ce que ça t'arrive?
Moi, ça m'est arrivé personnellement. Moi, ça m'est vraiment arrivé. Mon partenaire, on était en train de manger. Puis il y a une madame qui est arrivée face à l'ambulance. Puis là, j'étais à mon collègue, d'après moi, elle vient pas nous féliciter. Là, de la manière qu'elle est arrivée, elle avait pas l'air d'une madame contente. Fait que là, j'ai descendu ma fenêtre, j'ai dit bonjour. Puis elle a dit, hey, c'est beau à voir ça, deux paramédics, deux ambulanciers avec leur masque. Avec le masque. Fait que là, je dis, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais merci, madame. Fait qu'elle dit, c'est pas positif pantoute. Elle dit, vous croyez à ça, vous autres, ces histoires-là? Elle dit, toi, ça te fait rien de voir ça à TVA, là, les émissions, pas de masque, puis ils sont collés, puis vous êtes obligés de porter un masque. Et je dis, écoutez, madame, présentement, là, je pense que vous adressez aux deux mauvaises personnes pour parler des masques, là. Je pense que ça fonctionne pas, là. Fait que là, tu sais ça, elle dit, vous êtes juste une gang de corrompus, engagés, pour
la classique,
là. Vendu.
C'est ça.
T'aimes pas les enfants.
C'est ça. Fait que là, j'ai demandé de garder 2 mètres de distance avec l'ambulance. Puis là, elle a commencé à m'envoyer chier. Puis là, elle a commencé à cracher partout. Blablabla, comme ça. Puis là,
voyez-vous, c'est pour ça le masque. C'est pour ça le masque, parce que vous me positionnez dans la face, madame.
Fait que là, j'ai dit, écoutez, madame, moi, si vous voulez discuter, pas de problème, on va être à 2 mètres, on peut débattre, il n'y a pas de problème, mais si vous rentrez dans ma bulle, moi, je finis ça, là. Fait que c'est ça, elle dit, va te faire soigner, maudit malade mental, puis elle est partie en faisant des fingers. Bon, ben, j'ai dit, bonne journée, madame, soyez heureuse, puis...
Vous croyez à ça, vous autres, la science?
Ouais, ben, ça a l'air que ça existe, la COVID, là. Non,
Une question plus technique pour le bénéfice de ceux qui peuvent avoir des symptômes de la COVID. Quand est-ce que ça devient assez inquiétant pour qu'on appelle l'ambulance? Il y a plusieurs symptômes, tu sais, puis quand est-ce qu'on sait que là, OK, là, ça vaut peut-être la peine que j'appelle l'ambulance ou que je me rende à l'hôpital? Parce qu'il y en a qui restent chez eux puis qui traitent ça comme un rhume, là.
Ouais, mais en fait, il y a deux réponses à ta question, Frank, puis je peux répondre de la façon dépisteur et la façon paramédic.
Okay?
La première façon paramédic, c'est écoutez, c'est dès que vous avez des symptômes, exemple respiratoire ou vous faites de la fièvre qui finit plus ou que c'est pas si vous n'êtes pas capable de soulager ça avec des médicaments en vente libre, vous perdez le goût, l'odorat, que vos symptômes, vous trouvez que c'est plus vivable. Ça nécessite des soins hospitaliers, ça c'est sûr et certain. En plus, quand on est testé positif, parce que oui, contrairement aux gens qui pensent que c'est juste une grippe, il y a un devoir de citoyen à faire, c'est de se faire dépister. T'sais. Puis dans le contexte où on est pris en charge par la santé publique, à tous les jours, il y a un questionnaire sur les symptômes à remplir, ce qui est un questionnaire qui est super important. Puis ça lève des flags si jamais, OK, oui, tu as besoin d'une hospitalisation ou non. Il faut remplir ce questionnaire-là tous les jours, c'est important. Puis, c'est ça. On parle que la 10e journée, quand on est infecté, qu'on est déclaré positif, la journée, c'est do or die. C'est là que ça se passe. Quand je dis do or die, c'est là que ça passe, ça casse dans le sens, c'est là qu'on sait si tu vas te ramasser, oui ou non, aux soins intensifs ou pas, si tu vas nécessiter une hospitalisation ou pas. On parle de la 10e journée.
Okay.
Habituellement, les gens qui vont passer la 10e journée vont bien s'en sortir. Ils vont avoir des effets, des séquelles à long terme ou à court, moyen, long terme, tout dépendamment. Ça, c'est une chose. Maintenant, si je te donne la réponse du côté dépistant.
Ouais.
Première vague, on disait aux gens, si vous faites de la fièvre, vous avez de la difficulté à respirer, si vous avez de la toux soudaine, puis perte de goût, perte d'odorat, vous devez aller vous faire dépister. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, les autres symptômes, on disait qu'il faut avoir un cumulé de 2 symptômes. Exemple, de la vomissement avec de la diarrhée, de la fatigue soudaine avec une perte d'appétit. Aujourd'hui, juste un écoulement nasal, on demande, allez vous faire dépister. Puis ensuite, en attente de vos résultats, mettez-vous en isolement, vous et votre bulle familiale. Ce qu'on ne demandait pas avant, on disait juste, la personne qui a des symptômes, tu restes en isolement. Le reste peut vivre normal. Là, c'est toute la famille qui doit être mis en isolement le temps des résultats. Pourquoi? Parce que les variants sont beaucoup plus contagieux, sont beaucoup plus virulents, sont beaucoup plus dangereux que le premier.
Ouais,
à cette heure, un symptôme, on vous demande, soyez en isolement, attendez vos résultats. Puis c'est un devoir citoyen à faire. Là. C'est pas,
ben oui, pour protéger le reste de la société. Mais les gens aussi de la bulle et de la famille peuvent être infectés, être porteurs du virus sans en avoir les symptômes. Fait que c'est pour ça, j'imagine, qu'on confine la famille.
Exactement.
Martin?
Là, mon One Love, j'ai une question difficile pour toi. Je veux pas te mettre sur la sellette. Je comprendrais que tu me dises, je préfère pas répondre à ça, mais tu le sais, au crachoir, on pose les vraies questions et on est capable d'y aller avec les vraies réponses, OK? Mais je vais respecter toute réponse que tu vas me faire. Est-ce qu'à ta connaissance, non, je peux pas te demander cette question-là de même, as-tu eu connaissance de dirais-tu qu'il y a un pourcentage quel qu'il soit, je vais te laisser commenter, de gens qui travaillent dans le secteur de la santé et qui croient que la COVID, c'est un truc planifié ou que c'est carrément juste pas vrai?
C'est une bonne question, ça. Écoute.
Je vais accepter n'importe quelle réponse que tu vas me donner, One Love, parce que je comprends que tu es un travailleur de la santé, que tu vas vouloir être solidaire de tes collègues. Je comprends ça. Je veux pas que tu partes, là. Ben oui, l'autre fois. Non, je veux pas que tu donnes, je veux pas que tu donnes des exemples avec des numéros de salle où tu travailles, des affaires de même. Mais tu sais.
Mais est-ce que ça existe?
Est-ce que tu t'inquiètes de ça? Est-ce que tu as eu des expériences avec ça?
Je suis pas inquiet de ça.
OK.
Moi, je veux juste dire, je suis pas régi par un ordre professionnel ou quelqu'un qui m'empêche de parler, là. J'ai le droit de parler, j'ai le droit de parole, là.
T'as quand même une direction, un boss, garde, là, je comprends.
Oui. J'en ai vu quelques-uns, mais c'est vraiment minime, là. Mais garde. Je peux t'en nommer un.
Non, facile, je veux pas que tu m'en nommes, là.
Non, c'est pas. Écoute bien.
OK, ben vas-y.
Souviens-toi, Martin, début de pandémie, l'infirmier auxiliaire qui parlait des masques puis qui disait que c'était une fraude. C'était un travailleur de la santé qui. Puis les conspirationnistes se sont ralliés à lui alors que il y a le reste qui disait c'est pas vrai ce qu'il dit, okay. C'est pas. Là, il dit mais c'est un infirmier, il a raison, alors que t'as des médecins spécialistes qui disaient carrément le contraire. T'sais. Il y en a, c'est comme dans tout, il y en a, mais c'est minime.
Ce que je comprends de ta réponse, c'est que t'as pas à te frotter à ça sur une base régulière.
Fait que les affaires qu'on entend de « je connais une infirmière, puis elle m'a dit que c'est tout pas vrai », donc ça peut être possible, mais c'est marginal. Puis probablement que quand il y en a une, quand les conspis en trouvent une infirmière ou un infirmier ou un préposé aux bénéficiaires qui est de leur bord, ben ils font comme avec les scientifiques qui trouvent dans les poubelles de la science européenne, puis ils en font une vedette, puis ils veulent tous se rallier à cette personne-là. Là.
Voilà, c'est ça. Mais c'est. Puis tu sais, on a tendance à exagérer un peu des fois le professionnel qu'on a entendu l'histoire. On a tendance à exagérer un peu son titre.
Ouais.
Mais moi, c'est pas avec ça que je deal. Moi, je deal plus avec des gens qui sont écœurés, qui sont brûlés, fatigués, qui sont tannés. Puis quand on voit des manifs, ben on se dit, OK, les gens, ces gens-là, parce qu'il faut pas dire les gens, c'est vraiment ces gens-là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de solidarité de la part de la population qu'on pense. Mais quand moi je vois ça avec des collègues d'autres professionnels, on se dit excusez le monde, hostie qu'on est écœuré là-dessus.
Ah oui, j'imagine, tu sais, même si c'est ils sont marginaux, c'est un petit pourcentage, je pense que c'est 20% de la population qui croit à ces affaires-là, puis encore un pourcentage encore plus infime qui va manifester dans la rue. Mais j'imagine que quand vous les voyez, à mesure qu'ils scandent leur slogan, vous voyez les heures s'ajouter à vos semaines, là.
Ben, il y a toujours une cause, un lien à faire, là. C'est parce que les autres, ils diront jamais qu'ils ont la COVID parce qu'ils vont pas se faire dépister. T'sais. Mais il y avait un concitoyen qui me le disait à un moment donné, il me le disait à moi, mais il disait aussi sur son Facebook, on a des symptômes, on a la grippe, mais on va pas se faire dépister. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est genre, tu sais, écoute, la manif qu'il y a eu à Montréal. Ben, c'est ça la question, tu sais. Mais on pourra jamais mettre le doigt là-dessus puis dire c'est ça parce qu'ils ne vont pas se faire dépister. Ils vont pas faire leur responsabilité citoyenne. Écoute, la manif qu'il y a eu à Montréal, la dernière grosse manif qui est une Montréal dans zone rouge, puis il y a des gens de zone jaune, orange, de l'extérieur qui vont toutes là, qui vont dans les commerces, qui vont gazer, qui vont là, puis ils retournent toutes chez eux après. Ben, c'est une belle façon de ramener le virus. Ça.
Ah oui,
c'est,
ils font des caresses, ils donnent des becs, puis hugs over mask, puis ça a toute la partie la plus décourageante du conspirationnisme. C'est quand ils s'en vont physiquement ensemble se contaminer les uns les autres. Là. T'sais, sur les réseaux sociaux, t'sais, c'est une chose, là, mais quand ils vont physiquement se réunir, moi, c'est ça que je trouverais difficile à votre place.
One Love. Ben, vas-y, excuse-moi, je pensais.
Non, écoute, tu sais, c'est moi, je trouve ça, ben, c'est sûr que moi, j'ai le nez un peu plus là-dedans que peut-être d'autres confrères ou consoeurs. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est une claque d'en face à chaque fois. Puis je trouve que, tu sais, il y a encore là une question d'éthique qui n'est pas faite envers les gens, les personnes qui ont la COVID, tu sais. Puis il faut pas penser, c'est parce que ça m'énerve quand ils disent toujours que, oh, c'est une pandémie, il n'y a pas de mort. Non, la mortalité, c'est une résultante, en fait. C'est une résultante de la pandémie, c'est tout. Il faut pas banaliser. Un mort, c'est un mort de trop, peu importe quoi, c'est un mort de trop, tu sais. Puis aucun respect envers les familles. Puis il faut prendre aussi les gens qui ont été contaminés, puis qui vont avoir des séquelles. Tu sais, moi, je connais personne. Ben, encore, je veux pas dire ça de même, là. Je connais personne qui a, tu sais, c'est pas un argument, là, mais je.
Non, mais je suis pas content que tu parles de ça, parce que nous autres, ici au Crachoir, pour vrai, ça fait longtemps qu'on le crie, que, tu sais, dans toute la démarche, pour les concitoyens, puis je m'excuse, je voulais pas te couper, mais les concitoyens, concitoyennes, c'est toujours t'en meurs ou t'en meurs pas. Mais il y a des gens qui vivent avec des séquelles. On pense justement à l'article du Devoir de la semaine dernière, qui présente le récit de trois femmes. Ils sont pas mortes, ces trois femmes-là. Mais ils ont des séquelles encore, genre 3 mois puis 4 mois après. Ils sont pas capables de reprendre le dessus, ils sont pas capables de Oh, puis je vais avoir une excellente question pour toi qui vient de New World Stakers également après ça. Mais merci. Il faut que les gens du personnel de la santé, dans ton cas à toi, c'est particulier parce que tu peux le faire, le disent qu'il existe du monde avec des conséquences lourdes de ça. Puis je m'imagine une de ces femmes-là qui a très généreusement offert son récit au Devoir. Ben écoute, as-tu idée comment est-ce que ça doit être insultant pour ces femmes-là? Puis là, je dis ces femmes-là, c'est parce que ça a donné que c'est trois femmes. Il y a des hommes aussi qui ont des séquelles. As-tu idée comment ça doit être insultant? T'as de la misère à respirer, pas capable de reprendre le dessus, t'essaies de te faire une toast, t'as de la misère. Puis là, ben, tu t'en vas te faire dire, oh, ben là, t'es pas mort, ta gueule.
Ça ressemble à, tu sais, quelqu'un qui subirait un accident de la route puis qui resterait paralysé, tu sais. Bon, ben, t'es pas mort. Ben oui, mais je marche plus. Bon, ben, c'est pas grave, t'es pas mort. Ils veulent compter ça en mort, eux autres.
Ouais. One Love, excuse, parce que le temps va nous manquer, mais c'est parce que j'ai eu une super bonne question de l'un de nos All-Stakers qui est avec nous pendant la captation. Est-ce que tu crois aux morgelons dans les masques?
Je sais même pas si c'est des morgelons. C'est tellement stupide. Écoute, c'est tannant. Fait que moi, je fais partie des personnes que ça arrive que je suis en voiture puis j'ai mon masque. Pas parce que j'ai peur, c'est parce que je suis tellement habitué de le porter, mon masque.
Ouais.
Je le sens plus. Je suis tellement habitué. Ben, écoute, si jamais ça existe, cette histoire-là, là, ben, écoute, je serais condamné. Genre, ben, ça sera une comorbidité puis je serais condamné à mourir.
Il paraît que l'important quand il y a des morgelons, c'est de pas renvaler sa bave.
Là, dernière affaire que je veux t'offrir, mon cher One Love. C'est que là, tu sais, je veux pas encore une fois te mettre sur la sellette ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu as à dire si tu pouvais le faire là, dans le contexte de notre plateforme, là, tu sais? Il va quand même avoir 3-4 concitoyens, concitoyennes qui vont nous écouter. Là. Ils le disent pas, là, ils se vantent pas de ça, là, mais ils vont nous écouter pareil.
Ah oui.
Qu'est-ce que tu as à dire? On garde ça entre les boîtes à mal, tu sais ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que tu as à leur dire à ces gens-là? Que ce soit à titre de paramédic ou à titre de citoyen qui deal avec ça sur une base régulière, journalière, qu'est-ce que tu as à leur dire?
Ben, comme paramédic, je dirais, soyez responsable, faites attention, puis c'est ça, ça serait, en termes de citoyen, je dirais plutôt, fermez donc. Ce serait ça, man.
Ouais.
C'est de la désinformation, c'est... Écoute, l'histoire des comorbidités, moi, ça me sidère d'utiliser des arguments de piètre qualité, de condamner des gens à mourir, de dire « Ah, mais eux autres sont condamnés » ou « T'es 70 ans et plus, tu contribues plus à l'économie, t'es 80 ans, tu ne sers plus à rien. » C'est pas de même, ça marche une société. Là. C'est pas de même. Là. On a chacun un devoir à faire, puis il faut faire attention à tout le monde, il faut protéger nos plus vulnérables. En termes de citoyens, en termes de pères de famille, de professionnels de la santé, rigueur, faites attention, puis prenez ça au sérieux. Là. C'est pas une joke, là. C'est pas une invention. Là.
Mais j'ai une question pour toi, justement. Mettons, c'est très bien fait. Très bravo. bravo. Mais j'ai une question pour toi. Puis là, je comprends qu'une semaine, ça va être une affaire, l'autre semaine, ça va être l'autre. Je comprends, là, c'est pas empirique, scientifique. Mais, tu sais, mettons, sur 100 calls que tu reçois, si tu avais à me faire une espèce de proportion sur ces cas-là, du pourcentage qui concerne des personnes de 70 ans et plus, qu'est-ce que tu mettrais comme pourcentage?
90 % de mes appels, c'est des personnes âgées.
Parfait. Fait que regarde, on lui répond plus. Il contribue à rien.
Non, c'est trop vieux.
On cancelle ça. Pour pouvoir appeler une ambulance dorénavant, il faut que tu aies 90 ans et moins.
Ouais,
au de ça, on ne se déplace plus. On ne se déplace plus. Vous êtes inutile. Vous n'apportez rien à la société. Vous, regarde,
ça, c'est les guerriers de la lumière puis qui propagent l'amour qui disent ça. Hein?
Ben, non, attends un peu. Rigueur. Je ne dis pas qu'ils disent ça. J'applique leur raisonnement.
Oui, ok, ouais, mais qui résonne comme ça. Là. Les vieux, c'est pas grave, là.
Tu reçois un appel excuse, je te laisse parler après, One Love, mais tu reçois un appel au central, là, OK? Il y a un appel qui est à 10 km pour un homme de 35 ans ou une femme de 40 ans, puis tu reçois un autre appel à peu près en même temps, c'est pour une dame ou un homme de 72 ans. Ben là, regarde, laisse faire l'homme, laisse faire la personne dans trentaine, quarantaine. C'est-à-dire, laisse faire la personne âgée, on s'en va. Voyons, c'est quoi ce raisonnement-là? Mais non, mais il faut prendre des décisions comme société, puis il faut qu'on lègue un monde meilleur à nos enfants, nos petits-enfants. Mais voyons donc, toi. Ma mère a 71 ans, elle est top shape, ben, capable de me crisser une volée. Tu sais, là, regarde. C'est un raisonnement de maillet. Excusez-moi. Je ne dis pas que vous avez dit ça, mais j'applique votre raisonnement là, que vous utilisez des fois comme argumentaire.
Puis même s'il n'apporte plus nécessairement quelque chose de concret là, qui se chiffre à la société, souvent, il apporte bien d'autres choses pareilles. Et quand même, toute leur vie, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils méritent moins de vivre? Peu importe ce qu'ils apportent ou non à la société, tout le monde mérite de vivre puis d'être sauvé quand on est capable. C'est aussi simple que voilà. Ça.
Il y a un argument dans la complosphère qui sort, c'est que on laisserait mourir nos personnes âgées dans les résidences de personnes âgées, dans les RPA ou CHSLD ou quoi de même, puis que là, le go, il s'arrange pour la solitude, nanana. Puis là, soudainement, il y a comme eu un éveil là, collectif là, de « Ah, vous les laissez tout seuls, mais excusez, il faut mettre de quoi au clair. » Là. Avant la pandémie, la solitude dans les résidences de personnes âgées, c'était présent. Là.
Était là.
C'était là. Oui. Là. Moi, personnellement, là, j'ai reçu beaucoup d'appels pour aller des gens qui étaient juste tout seuls puis qui avaient envie de jaser. Puis que, en allant à l'hôpital, c'est leur façon à eux de voir d'autres personnes. Puis que ça les désennuie d'aller à l'hôpital puis de nous voir. Aller m'asseoir avec des gens à Noël, des personnes âgées à Noël, juste pour jaser, ça m'est arrivé. Faut pas penser que c'est là que c'est arrivé, ce problème-là, à cause de la pandémie, là, que finalement, la solitude, là, on l'a ressorti tout de suite. C'est un problème qui existe depuis bien avant.
Ça montre que leur argumentaire est à géométrie variable. Tu sais, c'est quand on pense à la société pour mesures sanitaires, là, les vieux, là, c'est pas important, les personnes âgées, c'est pas important, puis ils ont fait leur temps, puis ça, je l'ai entendu de conspi, ils ont fait leur temps. Là, c'est pas important, puis on s'en fout d'eux autres. Mais quand c'est pour planter le go, là, on peut dire, là, c'est important, là, ils sont dans les CHSLD, puis ils sont seuls, puis... Alliez-vous voir vos parents avant la pandémie, là, les conspis, là? Est-ce que vous étiez conscient et sensible à cette problématique-là de solitude chez les gens âgés, ou ben si c'est juste quand ça sert votre argumentaire pour planter la CAQ, le go, ben crier au complot, ça devient utile rendu là. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est la géométrie variable. Des fois, les personnes âgées sont importantes. Il faut tout faire pour les sauver. Et des fois, elles sont pas importantes. Elles ont fait leur temps. Ça dépend de la façon dont on argumente, mais on s'en sert à sa guise pour avancer pour faire valoir ses idées conspirationnistes.
Hey, One Love, merci tellement. Merci de nous éclairer. Merci de nous donner de l'amour et de la lumière.
Puis merci de faire ta part aussi avec les tests et tout, en plus de ce que tu fais comme paramédic.
Ben oui, merci de ce que tu fais, bien sûr. Mais on va te laisser le mot de la fin, tiens.
Oui, ben merci. Puis je m'adresse, ben merci de m'avoir écouté, les gars, super apprécié. Puis mon mot de la fin, ça va être pour les 3-4 conspis qui vont écouter le show. Allez donc vous faire vacciner. Je nous aime.
Mais avant, cher conspi, savourez la prochaine chanson que je vous dédie. C'est justement pour vous que je passe ça. C'est votre We Are the World, faite par nul autre que le cantateur Yvan Pion et sa chorale de conspi qui fausse. Ça s'appelle Allume ton flambeau. C'est leur espèce d'hymne des conspis. On vous fait jouer la version originale et à la fin du show, après la poutine, je vous ferai jouer une autre version. Plus agréable, celle-là. C'est le crachoir, épisode 156. One Love.
Saint-Michel des Saints, priez donc pour nous, mon pays chagrin. Un besoin d'amour, les sœurs et les frères n'osent plus parler, l'harmonie se perd. On ne sait plus danser, le concert est dissonant. Ténor, railleur, postillonne, protégez bien les enfants. Les comptines dérisonnent. Merci Martina Matane, merci Carla Gatineau. Voix du cœur dans le vacarme qui rappelle nos idéaux. Merci Caroline Ambos, Sylvain Archicoutimi. La peur est en overdose, vos flambeaux chassent la nuit. Prophète de malheur, change de refrain, réunis nos cœurs, rassemble nos mains, apaise nos peurs. Ouvre grand nos yeux, libère la chaleur de nos corps frileux. Au grand bal des sanguinaires, le festin est d'âme en peine. Mais les guerriers de lumière, prends le devant de la scène. Merci Martina Matane, merci Carla Gatineau. Vois du cœur dans le vacarme qui rappelle nos idéaux. Merci Caroline Ambos, Martin en Abitibi. Pour nous sortir de l'hypnose, vos flambeaux chassent la nuit. Les vampires sortent au grand jour, le teint pâle et les yeux fous. Ils ne connaissent pas l'amour, cette force qui est en nous, cette force qui vient à bout de tout. Martina Matane, merci Carla Gatineau. Voix du cœur dans le vacarme qui rappelle nos idéaux. Merci Caroline Ambos, Michel Arpanzini. Toute la terre est en osmose, nos flambeaux chantent la vie. Chante la vie, chante la vie.
Les casseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent.
Le crachoir, épisode 156. Je tiens à... Le crachoir s'excuse de vous avoir fait endurer « Allume ton flambeau » de Yvan Pion. Mais c'était pour mettre en contraste la chanson que je vais vous présenter après la poutine, que Martin va nous servir maintenant dans une grande assiette.
Ben justement, Frank, je vais scraper un peu ton setup et tu vas comprendre. Ça va prendre seulement deux petites secondes. La première nouvelle que je voudrais annoncer, c'est qu'on est super content de pouvoir dire à tous les gens qui nous écoutent que non seulement ben on est heureux de notre partenariat, bien sûr, avec fromageauvillage.ca/boutique et que vous pouvez utiliser le code rabais DeepSteak pour obtenir 10 % sur tous les produits qui sont sur la boutique. Et quand vous commandez pour plus de 50 $ au Québec, il n'y a pas de frais de livraison. Mais il y a une personne qui est membre de notre plateforme qui a eu une idée de génie. Tu sais, le genre de personne que tu es tout le temps jaloux de ses idées.
Ouais, ouais.
Tu sais que, cette personne-là, si c'en est une, elle se reconnaît présentement. Je lui dis merci parce qu'elle a eu la brillante idée qu'on fasse une dégustation de fromage et puis le deep steak et peu importe. OK? Donc, écoute bien ça. Mm-hmm. Moi, les idées, c'est ça qui me motive le plus, même quand elles ne sont pas à moi. Fait que là, j'ai comme une idée d'essayer de faire la plus grosse dégustation de vin et fromage virtuel de l'histoire de l'humanité.
Sur la plus grande superficie possible. On peut se rendre jusqu'en Suisse, d'après moi.
Non, on peut pas, Frank, parce que t'as pas le droit de livrer du fromage et des produits laitiers internationaux.
T'as bien raison.
Mais c'est pas grave. En pensée, je suis convaincu.
Ben, Québec, c'est grand.
Oui, c'est grand. Ben oui, absolument. Voici comment ça va fonctionner. La dégustation en tant que telle va se dérouler au mois de mai. OK? Qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir y participer? C'est pas compliqué. C'est de faire partie du Deep Steak. OK? Fait que patreon.com/crachoir. OK? Vous en allez là. Sélectionnez le niveau de partenariat que vous, le niveau de contribution que vous voulez, là. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'être aux trois plus gros levels. Non.
Vous pouvez être à 5$ US
par mois, là. Tu peux en faire partie, OK? Après ça, ce que Hélène a accepté de faire, la fromagère, Hélène Lessard, qui est une sommité dans l'agroalimentaire au Québec, a dit, donc, ce que je comprends, tu veux que je fasse un assortiment exclusif pour les Deep Steakers. Et voilà! Fait que ça va être vraiment un assortiment de dégustation. C'est pas l'affaire que tu vas t'acheter à l'épicerie, right? Mm-hmm. Fait qu'on va tout avoir le même assortiment, on va tout être ensemble en Zoom, on va tout être un paquet à boire et à manger du fromage. Et on va avoir la fromagère avec nous autres.
Ça, c'est cool.
Ça, c'est très, très cool. Fait que les dates s'en viennent. On va recevoir Hélène qui va venir nous en parler, mais je veux juste vous le signifier. Ça va être probablement parce que vous savez que la fête des mères s'en vient. Dans l'agroalimentaire, c'est une très grosse période. Ça se donne très bien. D'ailleurs, restez à l'antenne parce qu'on va vous présenter des choses à cet effet-là. Mais je veux le dire le plus d'avance possible pour que vous le sachiez. Alors, voilà. Fait que les détails vont s'en aller. Ça, c'est la première affaire que je voulais dire. Je remercie Hélène, Christian et Anne, les propriétaires de la fromagerie. Merci infiniment d'embarquer dans nos niaiseries. Mm-hmm. Il y a d'autres surprises aussi qui s'en viennent par rapport à ça. Ça règle la première affaire. La deuxième affaire, c'est qu'avant qu'on aille à la toune de la fin du show et que je fasse mes plugs habituels, il y en a une déjà faite, mais je veux vous conter ma semaine par rapport à ce que vous allez écouter. Toute la semaine, OK, Frank me contacte pour me dire « Hey, en tout cas, je travaille sur quelque chose avec Super Dave. En tout cas, je travaille sur quelque chose avec Super Dave. » Puis là, je te taquine, Frank. Je ris pas de toi parce que je suis comme toi. On est tous pareils. Quand tu fais du créatif, ça avance à ton goût. Est-ce que tu as envie de le dire?
Ah, mais j'ai rarement eu autant de difficultés à retenir une création, de la sortir, de la montrer à quelqu'un. J'étais sur le bord d'accrocher un itinérant dans la rue. Check ça. J'étais fier. J'étais content de ce qu'on avait fait. On s'est tellement amusé à le faire. J'avais vraiment hâte, surtout que toi, tu le vois.
Ben oui. Puis écoute, j'ai brisé la magie, je l'ai vu et j'ai adoré. Fait que là, c'est ça que Frank va nous présenter après que j'ai eu fini ma poutine pour le close. Mais avant qu'il vous présente son projet, moi, je veux vous dire comment moi, je l'ai vécu avant de le voir. Fait que Frank, puis là, c'est comme, hey, en tout cas, je me retiens. En tout cas, il m'a sauté. Il s'arrêtait pas.
T'es vendu ça gros.
Je suis comme, hey, Frank, calme-toi. T'es en train d'over-hyper l'affaire. Puis là, quand je vais le regarder, ça va faire...
Non.
OK? Maintenant, je vous confirme que c'est pas ce qui s'est produit. Pantoute. OK? J'ai eu la chance pendant l'enregistrement du Deep Steak, épisode 41, qui s'est déroulé hier, avec les membres du All Stake aussi, de voir cette création-là. Et Frank a pu voir mes réactions. Et c'est un succès. C'était pas overhypé. Fait que c'est ce que vous allez entendre en version audio. Je tiens à vous dire aussi, si vous hésitez à vous joindre à nous pour le live ménage de dimanche, que ce sera l'open en visuel.
Oui, c'est un clip.
De cette création-là. Fait que je voulais dire merci à Frank et à Super Dave. Vraiment, quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est plein d'easter eggs là-dedans. Faut que vous écoutiez ça avec des bons écouteurs et tout ça. Ben là, si vous nous écoutez en podcast, ben, vous êtes déjà peut-être déjà équipé en ce sens. Mais en tout cas, Frank, Super Dave, merci beaucoup. Super Dave, particulièrement, parce que je sais que tu as aussi travaillé fort, mais Super Dave,
il a mixé.
Je veux pas brûler de punch, là. Je vais te laisser compter ça dans le live. Mais Super Dave a fait un travail olympique là-dessus. Fait que c'est de toute beauté. Fait que je fais ma poutine, Frank. Si vous nous écoutez pour la première fois sur RadioH2O.ca, où nous sommes en exclusivité tous les dimanches à 20h, on vous dit un énorme merci. Et sachez que vous pouvez nous transporter absolument partout, même sur le top de la Maya Mobile. Même Trucker Thibault peut nous écouter sans Internet, étant donné qu'il est souvent va sévir dans des régions éloignées. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur toute bonne plateforme de podcast ou de balado-diffusion pour les amants de la langue de Molière. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout bon podcatcher, Android. Si vous voulez rehausser votre expérience dans le Deep Steak Verse, rien de plus complexe, rien de plus simple plutôt, c'est ma manière de m'exprimer qui est complexe, patreon.com/crachoir et vous aurez toutes les informations sur tous les avantages que tous les niveaux vous confèrent. On a des nouvelles personnes qui s'ajoutent régulièrement. On les remercie, puis on remercie surtout tous nos stakers, nos vétérans, nos filets mignons. Écoute, c'est vraiment une communauté incroyable. Merci à nos modérateurs qui nous suivent dans toutes nos niaiseries quand on fait des trucs live. Merci à CC Suburban, the master merchandiser, overproducer de l'histoire de l'humanité. Frank, présente ton bijou.
Je vais faire un Martin, mais avant, t'as-tu peu, t'attends, non, pas de suite, t'as-tu peu,
coupe-moi pas mon esti.
J'ai été victime de diffamation récemment, deux fois plutôt qu'une. On m'avait envoyé la semaine passée le fait que quelqu'un me diffamait, la personne de Alain Cyr qui me diffamait dans son live. En tout cas, vous comprenez que j'utilise le mot diffamer parce que j'aime ça leur mettre dans le nez des conspis qu'ils l'utilisent à toutes les sauces. Mais j'ai été victime de propos haineux et de diffamation. Alain Cyr m'a traité de farfada parce que j'ai fait un concert bénéfice pour aider des gens. Et je vais l'adresser aussi dans le live, là, mais je veux juste dire une chose à Alain Cyr. Les farfadas, là, vous avez pas inventé ça, la générosité, puis aider le monde, là. Puis vous le faites très mal, OK? Fait que avant de donner des cours, commencez par apprendre. Puis c'est pas parce que je m'habille mal, puis que j'ai une allure négligée, puis que je fais dur, que je fais partie de votre gang de crapins! C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais en reparler sûrement dans le live. On va sûrement réadresser ça.
Hashtag humilité et recul.
Voilà. OK, bon, c'est le grand moment de vous passer la version audio parce que oui, c'est un vidéoclip parce que c'est une parodie du vidéoclip de Allume ton flambeau de Yvan Pion qui est une espèce de d'hymne au conspi. Donc, voici la version que moi et Dave, on a fait ensemble. Pour démystifier, là, c'est pas compliqué, là, c'est... Dave a tout mixé, a fait l'enregistrement, il a joué la bass, puis il a programmé le drum. Puis il a mis aussi de l'orgue, là. T'sais, il a pas joué, il a programmé de l'orgue. Moi, j'ai joué la guitare, je fais Yvan Pion, et les deux, on s'est partagé les choristes conspi, puis c'était drôle parce qu'il fallait qu'on fausse un peu pour que ça ressemble à la vraie toune. Ça pouvait pas être parfait, là. Puis je parle en faisant les conspis. Quand je faisais Yvan Pion, je chantais le mieux que je pouvais, puis je chante pas aussi bien qu'Yvan Pion. Ça, j'en suis conscient. Mais pour les conspis, puis pour la musique, on s'est arrangé que ça sonne pas trop bien, mais je vous dis, c'est déjà beaucoup mieux mixé et plus professionnel, et ça sonne pas mal mieux que la version originale. Donc, la voici. C'est nous, les conspis, et le nom d'artiste qu'on s'est donné pour ça, c'est... Les conspis. C'était le crachoir épisode 156. One Love.
Saint-Michel des Saints, priez donc pour nous. On a mis ton portrait sur la patente de blé. C'est nous les conspis. Non, on n'a rien appris.
on se fait des petites chansons pour récolter des dons. C'est toujours la même propagande qu'on scande en manifestant. La police est tolérante quand on traîne nos enfants. Merci la truite de Matane, merci Cavagatino, la peur de tous ces complots a fait de nous des idiots. Merci la queue du Lambos, le clown à Chicoutimi, crache le cash pour la cause, parce que oui, c'est nous les conspires. On a inventé une sorte de religion. On veut bloquer des ponts. On avance comme des pions. On propage notre foi en même temps que la COVID. On sait qu'on l'aura pas. Nos gourous l'ont promis, nous les guerriers de lumière. On vous tire vers l'arrière, on pense qu'on a un super bon système immunitaire. Merci la gang de Québec, merci à Radio Conspice. Grâce à vos ondes radio, les gourous parlent aux idiots. Merci d'Annalie Perrault, le gars weird en Abitibi. Les médias, c'est le démon, on le sait car c'est nous les conspires. De l'amour, mais à grand coup de fuck you. Et quand on manque d'arguments, on menace pacifiquement, on bombarde avec des liens. Parle au dragon, le gars des arrestations. Merci douchebag de Laval, citadin, veux-tu grand Montréal. On se prend pour des héros, parce que oui, c'est nous les conspires. On vit dans des nids. C'est nous les conspires.
Membre de la famille H2O Web Media.